Sur l'autre rive de la Seine, un jeune couple nouvellement établi, non loin de la gare d'Austerlitz, mit au monde une petite fille. Le père s'appelait Lierre, la mère s'appelait Rose. Ils nommèrent le bébé Trémière. « Vous êtes sûre de ce prénom ? » interrogea l'infirmière. « Oui, » dit la couchée. « Mon mari porte un nom de plante grimpante, et moi, celui d'une rose. Une rose qui grimpe, c'est une rose Trémière. » Découragée face à une telle détermination, l'infirmière inscrivit Trémière sur le bracelet. Au moment de le nouer autour du poignet, elle regarda le visage de la petite et ne put retenir un cri. « Que tu es belle !» Trémière n'avait pas la figure rouge et chiffonnée des nouveau-nés. Sa tête était lisse et blanche comme une fleur de coton. Aucune convulsion ne secouait ses traits de poupée de porcelaine. Les gens qui vinrent effectuer leur visite de politesse à la maternité furent aussitôt sous le charme. « Vous l'avez bien réussi, » dirent-ils aux parents, émerveillés d'un succès si facile. Il y eut quelques fâcheux pour déplorer le prénom, mais ils concluaient toujours ainsi. « Bah, elle est si belle que n'importe quel prénom lui irait. » Lierre inventait des jeux vidéo, Rose dirigeait une galerie d'art dans le nouveau quartier branché de Chevaleret. Ils avaient 25 ans, ils n'avaient pas de temps à accorder à leur bébé. Un mois après l'accouchement, la jeune mère reprit son travail et confia la petite à sa mère, qui habitait une ruine somptueuse à Fontainebleau. « Tu es sûre que c'est une bonne idée ?» lui demanda Lierre. « C'est là que j'ai grandi, élevée par ma mère, » répondit Rose. « La maison et la mère s'effondraient moins à l'époque. Je souhaite à ma fille une enfance aussi féerique que la mienne. » La mère de Rose s'appelait Passerose, autre nom de la Rose Trémière. Elle s'éprit de sa petite fille au premier regard. « Je ne pensais pas qu'il était possible d'être encore plus belle que Rose, » dit-elle à l'enfant sonne. Personne ne connaissait l'âge de Passerose. Cette ignorance renforçait l'idée qu'elle venait d'une époque radicalement autre, où les papiers d'identité n'existaient pas, et où les filles de 16 ans hésitaient entre les carrières de fées ou de sorcières. Passerose semblait ne pas avoir choisi qui tenait autant de la sorcière que de la fée. Rose n'avait jamais connu son père, ni même su son nom. Quand elle interrogeait sa mère à ce sujet, elle n'obtenait pas d'autre réponse que « Je l'aimais. Il est mort à la guerre. Quelle guerre ? Les Français ne faisaient pas la guerre au temps de ma naissance. Les Français font toujours la guerre quelque part. Parle-moi de lui. Je ne peux pas. C'était un trop grand amour. » Parfois, Rose soupçonnait Passerose de l'avoir inventé. Il n'en demeurait pas moins qu'elles habitaient un palais qui leur avait été légué par ce père et dont la propriété ne leur fut jamais contestée. Enfant unique, Rose avait passé de nombreux après-midi dans un grenier sardanapalesque, à fouiller dans des coffres et à s'imaginer une ascendance royale. Il y avait là des lettres d'amour adressées à sa mère, plus sublimes les unes que les autres, aux signatures indéchiffrables et aux calligraphies nombreuses. La petite fille se demandait si elle émanait de plusieurs hommes ou d'un seul homme qui aurait éprouvé pour Passerose toutes les formes d'amour. Elle ne trouva aucun portrait. Les traces n'étaient qu'écriture. Le mystérieux père n'avait guère laissé d'argent. Passerose s'improvisa chiromancienne pour ne pas mourir de faim. Les clients arrivaient dans cette demeure incroyable qui s'effondrait pendant les séances de voyance. La médium ne manquait jamais de déclarer qu'il s'agissait d'un signe. On la croyait. La mise en condition relevait du chef-d'œuvre. Ils arrivaient dans un boudoir en ruine, étaient reçus par une femme au visage indécidable, aussi belle que laide, aussi jeune que vieille, aussi douce que terrible, qui les invitait à s'asseoir et qui ouvrait leurs mains avec autant de délicatesse que si elle tournait la page d'un incunable. Elle regardait longtemps, d'un air douloureux, la paume de celui que cette lenteur angoissait et finissait par prédire des événements d'une positivité extrême, tandis qu'un lambris s'écroulait. Elle terminait toujours la séance par cette formule « Vous êtes protégé ». La personne payait et s'enfuyait de peur que l'oracle change d'avis. Rose lui demandait parfois si cela l'amusait de se moquer du monde. « Qui te dit que je me moque ? Je t'ai déjà observé, caché derrière les rideaux. Tu racontes n'importe quoi, cela se voit. Plus exactement, j'ouvre la bouche et j'écoute ce qui sort. Je ne connais pas la région de moi qui parle. Maman, Tes prophéties se vérifient-elles ?
Aucune idée, je n'ai jamais reçu de réclamation. Et comme je n'annonce que des bonheurs et des triomphes, je fais plaisir.
Ce n'est pas très honnête.
Pas d'accord. 100% de mes clients repartent heureux.
Me lirais-tu les lignes de la main à moi,
à ma propre fille ? Ton visage me suffit à t'affirmer qu'un grand destin t'attend.
Passerose travaillait au noir. Si elle avait dû payer des impôts, elle n'aurait pas pu conserver le palais.
À l'école, dans la case « Profession des parents », Rose inscrivait « Père décédé, mère veuve ».
Elle avait encore plus honte du pléonasme que de la nature de l'emploi déclaré. Apitoyée par sa condition d'orpheline, les enseignants ne poussaient jamais plus loin l'interrogation. Il faut reconnaître que Passerose avait les caractéristiques de la veuve archétypale. Toujours vêtue de noir, le visage noblement désolé, le célibat farouche, une propension à être perdue dans ses pensées. Un jour qu'elle mettait à la porte un prétendant, Rose entendit sa mère dire
« Vous seriez moins arrogant si vous saviez à qui vous souhaitez succéder ».
La fille trouva cette réplique digne d'Angélique marquise des Anges.
« Maman, est-ce que je lui ressemble » intervient-elle.
« À qui ?
À celui auquel ce type voulait succéder.
Tu continues à m'espionner. »
De fait, elle espionnait. Elle se l'expliquait par le mystère exagéré qui l'entourait. Très vite, elle apprit à y trouver du plaisir.
L'énigme l'exaltait. Fouiller le grenier, en extraire mille extravagances et autant de secrets, ne jamais obtenir de réponse, exercèrent son regard et son esprit. Adulte, elle n'expliquait pas autrement sa passion pour l'art contemporain. La frustration générée par ses œuvres lacunaires lui rappelait sa fascination et cette insatisfaction enfantine. Placer sa fille chez sa mère équivalait pour Rose à lui léguer la poursuite de l'enquête. « Cela t'éveillera l'intelligence, mon bébé. » Ce ne fut pas ce qui se produisit. Dès qu'elle arriva dans cet univers de contes de fées, l'enfant sonne adopta une attitude qui devait être la sienne pendant une vingtaine d'années, la pâmoison.
Au lieu de se demander comme Rose ce que tout ceci cachait, elle ne se demanda rien.
Le monde, stupéfiant de Passerose, n'eut pas d'autre effet que de surdévelopper chez Trémière la capacité d'ahurissement. La grand-mère posait la petite dans son parc, au milieu d'un salon immense, dont l'effondrement partiel accentuait la splendeur, et partait vaquer à ses occupations. Chaque fois qu'elle passait par la pièce, elle constatait que le bébé n'avait ni bougé ni changé d'expression. « Que tu es sage !» disait l'aïeule. Quand elle la prenait dans ses bras, Trémière la contemplait avec une admiration fixe qui aurait dérangé n'importe qui, mais qui ravissait Passerose. « J'ai toujours rêvé d'être regardée comme cela !» Entre la grand-mère et la petite fille, ce fut l'amour fou. La vieille dame s'en voulait un peu d'aimer Trémière infiniment plus que sa propre fille, mais elle n'y pouvait rien. « Ce n'est pas comme si je n'avais pas aimé Rose !» se rassurait-elle. Il en alla de même pour l'enfant, qui certes aimait cette mère qu'elle voyait de temps en temps, mais qui d'emblée voit à Passerose une ferveur absolue. La petite fut lente à parler, comme elle fut lente à tout. Elle approchait des 2 ans quand elle prononça enfin ses premiers mots. « Je t'aime, » dit-elle à l'aïeul. Passé le choc, la vieille dame ne put s'empêcher de demander « Qui aimes-tu ? » « Je t'aime, grand-maman. » Celle à qui s'adressait cette déclaration prit l'enfant et la serra dans ses bras sans pouvoir la lâcher. Cet amour ne ressemblait à aucun de ceux qu'elle avait éprouvés. Il l'emportait non seulement par l'intensité, mais aussi par la nature. Elle sentait une source qui coulait de sa poitrine à celle de l'enfant et qui lui revenait encore plus exquise. « C'est toi qui m'as appris que l'on pouvait aimer ainsi, » dit-elle. Quand Rose venait leur rendre visite, Passerose s'efforçait que tout ait l'air normal. Elle avait enseigné à Trémière un compliment à réciter par cœur quand elle serait en présence de sa mère. Sur un geste de l'aïeul, elle annonça « Je t'aime, maman. »
« Tu parles, toi ?»«
Oui, et tu entends ce qu'elle te dit ?»«
C'est bien, » dit Rose, qui avait senti la leçon apprise et l'absence de conviction.
« Et que dis-tu d'autre ?»«
C'est un début, ma fille, un peu de patience. »
Rose s'isola quelques instants avec sa mère.
« À son âge, je parlais déjà depuis longtemps, non ? Et je marchais. »
« Il ne faut pas comparer. Chaque enfant a son rythme. »«
D'accord. »
Quel est le talent particulier de ma fille ?
La contemplation. Tu es sûre que tu ne dis pas ça pour masquer autre chose ?
Sûre. Je l'ai observée. Elle contemple avec une intensité extraordinaire.
Rose ne restait jamais longtemps. Elle se sentait de trop. Quand elle s'en allait, elle soupirait de soulagement.
« Béni soit maman, je crois que je ne suis pas faite pour être mère. Je ne parviens pas à m'extasier sur cette petite. Je trouve qu'elle a l'air bête. »«
C'est vrai que tu pourrais marcher, » dit l'aïeule.
« On essaye. » Elle posa la petite par terre, debout, sans lui lâcher les mains, et l'incita à mettre un pied devant l'autre. Le résultat fut médiocre. Tout se passait comme si l'enfant ne s'intéressait pas à l'exercice.
Passereau s'installa à 5 mètres de Trémière et ouvrit les bras. «
Viens, ma chérie. »
La gosse vint à 4 pattes. Ce n'était pas la solution. La grand-mère eut alors l'idée de marcher à côté de l'enfant en lui tenant une main. « On part en promenade. » Trémière comprit que cette activité la liait à grand-maman et nécessitait un savoir-faire particulier. Elle marcha sans l'ombre d'une difficulté, tendant le bras vers le haut, en direction de celle qu'elle aimait, savourant la pression de cette main sur la sienne. La promenade les conduisit dans le jardin, qui consistait en une sylve à l'abandon. Il y avait trop d'arbres pour que de l'herbe puisse pousser entre les troncs. La mousse et les feuilles mortes recouvraient le sol. Au printemps, l'anémone sauvage y fleurissait. « Les gens me reprochent de ne pas m'occuper assez du jardin », déclara la vieille dame à sa très jeune accompagnatrice. « C'est que vois-tu, je ne suis pas bûcheron. Et je n'ai envie de me débarrasser d'aucun de ces arbres. Ils sont tellement beaux, n'est-ce pas ? Ils vous mangent votre lumière, me dit-on. Préférez la lumière aux arbres, cela me paraît aussi absurde que de préférer l'eau aux fleurs. » La vérité était qu'on ne lui faisait plus ce genre de remarques depuis très longtemps. Les clients, est-ce le mot, qui venaient la consulter au sujet de leur avenir, partaient du principe qu'en ces lieux, rien n'était normal, et surtout pas la maîtresse de maison. Dès qu'ils entraient dans le domaine, la peur les saisissait. Même l'amabilité de Passerose ne les rassurait pas, et la présence d'une enfantonne irréelle de beauté accroissait leur inquiétude. Pour ne rien arranger, la voyante affirmait qu'à son âge, elle était son portrait craché. On ne pouvait alors que scruter la face malmenée de la dame et s'interroger sur l'ampleur du traumatisme qui l'avait endommagée. Non qu'elle fût laide, loin de là. Mais on ne pouvait pas simplement dire d'elle, comme on le dit de tant d'aïeuls, qu'elle avait dû être très belle. On se disait qu'elle avait dû être très belle et qu'il avait dû se produire un cataclysme que le naufrage commun du passage des ans ne pouvait expliquer. On avait l'impression que ce visage avait été exposé à quelque spectacle indicible qui en avait changé la nature. Certaines personnes avaient pitié de la toute petite fille qui vivait seule dans cette ruine avec une sorcière. Elle devait pourtant admettre qu'elle semblait heureuse et en bonne santé. L'enfance est un miracle, pensait-on. On peut partager le quotidien d'une vieille folle et s'en accommoder. Trémière faisait mieux que cela. Elle avait conscience de l'exceptionnalité de sa grand-mère. La comparaison avec sa mère était éclairante. D'instinct, elle sut qu'il fallait donner le change. Si d'une manière ou d'une autre, elle signalait la bizarrerie de Passerose, elle risquait de lui être enlevée. Les rarissimes fois qu'elle quittait le domaine, elle était épouvantée par l'insignifiance du monde ordinaire. « Grand-maman, je veux rester toujours avec toi », déclara-t-elle à 2 ans. C'était autant une parole d'amour qu'un choix.